Donc bonjour ou rebonjour à tous et à toutes. Très content d'être à nouveau physiquement dans l'Assemblée, accompagné de Jean-Christophe. Merci. Le message d'aujourd'hui va être dans la continuité de la dernière fois, puisque la dernière fois nous avons commencé le chapitre 3 de l'épître de Jacques concernant la langue. Et donc, on va continuer aujourd'hui. Donc, la dernière fois, c'était les 5 premiers versets du chapitre 3. Et aujourd'hui, on va continuer donc ce texte sur la langue. Donc, on va commencer par la prière. Seigneur, ta parole dit que ce qui sort de notre bouche est l'expression de ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et que la langue révèle ce qui se passe en nous à l'intérieur de manière cachée. Donc, puisses-tu nous faire la grâce que le cœur et la bouche soient accordés par ton esprit. Amen. Donc, comme d'habitude, je vais vous proposer une traduction hyper littérale à partir du texte araméen. Et ensuite, donc, je ferai quelques commentaires. Alors, d'abord, pour resituer le contexte du chapitre 3. Alors évidemment, ça ne sera pas étonnant si je dis que le chapitre 3 vient après le chapitre 2. Et dans le chapitre 2, je vous le rappelle, Jacques disait quelque chose d'extrêmement fondamental, je trouve, pour la vie chrétienne. C'est que la foi que le Seigneur nous donne à l'appel, si elle ne s'accomplit pas par les œuvres de l'Esprit, c'est-à-dire la vie de l'Esprit en nous, cette foi reste morte. Et c'est important de comprendre, donc dans l'araméen, il dit que la foi, elle mûrit et elle devient mûre par les œuvres de l'Esprit. Et je le rappelle, pour bien illustrer de quelle œuvre on parle, il n'est pas question des œuvres de la loi, puisque Jacques va prendre un exemple avant la loi, c'est-à-dire Abraham. Et Jacques nous dit que la foi d'Abraham, qui a espéré contre toute espérance, s'est accomplie ou elle a mûri comme un fruit qui devient mûr quand il a été prêt à perdre le fils de la promesse. D'où l'idée que la maturation de la foi passe par une mort. Quelque chose doit mourir. Et dans la parole, dans la Nouvelle Alliance, on comprend que ce qui doit mourir, c'est notre chair. Et par conséquent, que l'instrument central pour notre vie, c'est la croix. Et donc c'est bien, parce que ça a été rappelé 2-3 fois ce matin, il y a un dépouillement, il y a une mort qui est nécessaire, pas de vie sans mort, pas de revêtement de Jésus sans dépouillement du vieil homme. Et on a trop tendance à proclamer la foi comme si tout était joué à l'appel, en oubliant que quelque chose doit s'accomplir en nous. Et pourquoi je situe ce contexte-là? Ben parce que la langue va être la révélatrice de ce qui s'est passé ou non à l'intérieur de nous. Et c'est exactement pourquoi, après nous avoir parlé de l'importance de l'œuvre de la foi qui nous fait passer par la mort et la résurrection. C'est exactement ce que Paul décrit dans Romains 3, 4, 5 jusqu'à 6. Donc, Paul et Jacques sont parfaitement d'accord avec des mots différents, mais je reviendrai sur Paul à la fin. Donc, de la même manière qu'il y a ce processus-là, la langue, comme je l'ai dit, va nous montrer en fait où est-ce que nous en sommes vraiment. Donc, c'est pour ça que Jacques insiste sur la langue. Et Jésus, je vous le rappelle, insistait déjà sur la langue en disant que c'est de la bouche que sortent. Et je vais revenir là-dessus. Donc, voilà le schéma de base. Donc, le chapitre 3 est un test pour chacun d'entre nous de où est-ce que l'on est, où est-ce qu'on en est de l'œuvre dans notre cœur. La bouche parle de l'abondance du cœur. La bouche extérieure révèle ce qui se passe dans le cœur à l'intérieur. Et c'est intéressant, évidemment, le cœur, puisque c'est là qu'est le lieu de la circoncision du Messie, de Jésus. Elle se fait dans le cœur et elle s'entend par la bouche. Donc là, je vous lis la suite à partir du verset 5. Donc à nouveau, c'est une traduction hyper littérale, donc le français est un peu... Mais j'essaye de rendre au mieux ce que dit l'araméen. Ainsi aussi, un petit feu embrase une grande forêt. Et la langue est un feu. Et le monde du péché, c'est comme une forêt. Et cette langue, quand elle est parmi nos membres, elle tache et souille tout notre corps. Et elle embrase le cours ou la trajectoire de notre génération, de notre lignée. Ça ne s'arrête pas à nous. Ça a des conséquences sur la descendance. Génération qui court comme une roue de génération en génération. Et elle brûle la langue, elle brûle par le feu. Toute nature de bêtes, d'oiseaux, de rampants, rampants de la mer et ceux de la terre, ont été asservis à la nature de l'humanité. La langue, cependant, nul humain n'est capable de la dompter, c'est-à-dire naturellement, sans l'Esprit de Dieu. Celle-ci, la langue, est un mal qui ne se contrôle pas. Elle est pleine d'un poison de mort. Par elle, c'est-à-dire la langue, nous bénissons celui qui est Yahweh, là en araméen il y a le nom même de Dieu, celui qui est Yahweh et Père, et par elle, la langue, nous maudissons les fils d'hommes qui sont faits à la ressemblance de Dieu. Et de la bouche sortent bénédiction et malédiction. Non, mes frères, que ces choses ne se fassent pas ainsi. Pas ainsi, pardon. Est-ce possible que d'une seule source sortent des eaux douces et des eaux amères? C'est une question rhétorique. C'est-à-dire que la réponse est oui ou non? Non, c'est une question rhétorique. C'est bien que la réponse est évidente. Ou bien, est-ce possible qu'un figuier, mes frères et mes sœurs, fasse des olives? Ou qu'une vigne fasse des figues? Ainsi aussi, des eaux salées ne peuvent pas devenir des eaux douces. Donc voilà le thème de ce matin. Et donc je vais le développer en 2-3 points. Donc voilà, la langue est un feu, un petit feu, qui est capable d'embraser une grande forêt. Et le monde du péché, notre monde intérieur, c'est cette forêt qui est embrasée par ce petit feu. Et non seulement notre monde intérieur, mais ensuite d'une génération à l'autre, on peut enflammer les rapports les uns avec les autres, et les rapports d'une génération à l'autre, de parents à enfants à petits-enfants, on peut l'embraser par une parole qui brûle et qui enflamme ensuite la chair. Et ça se transmet. Quand le cœur est enflammé par la convoitise, puisque la source de la parole, c'est bien le cœur, la parole extérieure et intérieure, le monde de nos pensées, devient un vecteur de feu. Ça devient destructeur pour nous-mêmes et pour les autres. Et ensuite, ce feu peut se traduire en acte corporel. C'est intéressant que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 7 que l'on peut brûler par la convoitise. Et c'est le même terme qui est employé, le même verbe qui est employé dans Jacques quand il dit que le feu embrase, brûle la grande forêt. Donc on peut embraser nos cœurs, embraser nos pensées, embraser le corps par des désirs impurs et embraser et empoisonner les relations d'une génération à l'autre. Tout ça pour un tout petit membre qui s'appelle la langue. Le feu démarre par une petite étincelle et ensuite elle s'amplifie par l'apport du bois. Et donc comme le symbole, comme je l'ai dit, du monde intérieur de notre corps, voire des générations. Et donc, là, on voit là encore l'unité entre ce que dit Paul et ce que dit Jacques. Paul parle d'un désir qui brûle, et donc le besoin d'un cadre, un foyer, pour contenir ce feu-là, qui s'appelle le mariage. Et Jacques nous parle d'une langue qui brûle, et qui, pour ne plus brûler, ne plus enflammer, a besoin d'un cœur purifié, et comme le dit Jacques plusieurs fois dans son épître, par la sagesse d'en haut. Donc l'œuvre de l'esprit. Donc pour Paul, le feu est celui du désir. Pour Jacques, le feu, c'est celui de la langue. Mais dans les deux cas, il s'agit d'une énergie intérieure non gouvernée par l'esprit. Et c'est ça le point qui est important. Il s'agit d'un cœur qui n'est pas gouverné par l'esprit. Et donc je reviens sur Jacques 2. Il s'agit d'une foi que l'on proclame, mais qui n'est pas accompagnée de l'œuvre de l'esprit dans notre cœur. Hein? Il faut que croire du cœur et confesser de la bouche, il faut l'union des deux pour avoir cette vie de l'esprit. Hein? Mais on peut confesser de la bouche, mais ne pas avoir l'œuvre du cœur. Et donc la vraie question n'est pas de savoir comment est-ce qu'on parle ou qu'est-ce que l'on désire, mais qui gouverne notre cœur. C'est ça le centre, je pense, de cette question de la langue, qui est l'expression de ce qui se passe dans le cœur. Et ça, c'est une idée que l'on trouve souvent dans la parole. Garde ton cœur plus que toute chose, car en lui sont les sources de la vie. C'est dans Proverbe 4. Jésus, évidemment, dit « De l'abondance du cœur, la bouche parlera ». Dans Luc 6, dans Marc 7, c'est du cœur que sortent. Et là, c'est intéressant quand on regarde la liste de ce que Jésus dit, qui sort du cœur. Vous avez à la fois les péchés de langue et les péchés du corps, la débauche. On a les deux. Ce qui pose la question d'ailleurs de la relation entre les deux. Mais je ne vais pas le développer ce matin. Si on veut maîtriser son corps, il faut maîtriser le monde de ses pensées. Et on maîtrise le monde de ses pensées quand nos pensées sont remplies de le Seigneur, sa parole, la prière, la méditation, les chants. Là où les pensées, on laisse du vide, comme le disait Aristote, la nature a horreur du vide, il y a d'autres choses, d'autres oiseaux qui viennent et qui viennent y semer leur... n'est-ce pas ? Donc le problème des pensées, si on lutte dans nos pensées intérieures, c'est de quoi est-ce que nous les remplissons ? Si elles sont remplies du Seigneur et de ces choses qui traient au Seigneur, il n'y a pas de place pour autre chose. Hein, que tout ce, comment il est dit ? Que tout ce qui est pur, vrai, beau, etc., etc., remplisse des pensées. C'est en remplissant ses pensées. Dans le chapitre suivant, au chapitre 4, Jacques va parler des conflits externes qui viennent de ces désirs, de ces convoitises qui se battent dans nos membres et qui créent des divisions dans l'Église. Dans Romains 6, Paul pose la question, qui règne ? Est-ce que c'est la chair ou est-ce que c'est l'esprit ? Et ça, j'y reviendrai à la fin, ce sera le mot de conclusion. Et dans Galates 5, la même idée. Marchons par l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Donc là encore, la maîtrise du corps ou la maîtrise de la langue passe par la marche par l'esprit. La marche par l'esprit, je le rappelle, c'est la focalisation sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à maturité, comme le dit l'araméen. Donc c'est cette marche centrée sur lui et donc détachée de nous-mêmes. Je rappelle à chaque fois qu'un mot moderne pour péché, qui ne sonne plus, qui ne veut plus rien dire pour nos contemporains, un mot moderne pour le mot péché pourrait être égoïsme, égocentrisme. Le ego, cet ego qui ramène tout à nous. Et le remède, c'est de tout ramener à Jésus, se décentrer de lui-même. Donc si la chair gouverne, alors la langue devient un feu, le désir devient brûlure, et l'homme cherche ensuite à justifier et couvrir ce feu-là. Mais si l'esprit gouverne, la langue devient un instrument de paix, d'édification, et le désir l'homme est désir, hein. L'humain est désir. C'est une des qualités, une des caractéristiques de l'humain. Dieu nous a créés avec des désirs. mais il faut que ces désirs soient canalisés et maîtrisés par l'esprit. Alors, ce désir est intégré, il est sanctifié, il est à sa juste place, parce que la racine, c'est-à-dire le cœur, est sous le gouvernement de l'esprit. Ça, c'est le premier point. Donc, on voit, quand Jacques parle de la langue, en fait, il parle du cœur. C'est intéressant que Paul, dans Romains 3, nous dit quelque chose de très semblable. Alors, quand on lit ça, il y a de quoi déprimer sur la nature humaine. On est très, très loin du message optimiste de l'humanisme moderne. Hein, l'homme est bon, mais c'est la nature qui corrompt l'homme. Non, la parole dit exactement l'inverse. Quand Jacques nous dit « Nul n'est capable de dompter la langue, elle est un mal qui ne se contrôle pas et elle est pleine de poison. » Ouch ! Là, pour notre fierté, on en prend un coup. Parce que c'est un jugement radical, c'est-à-dire qui va à la racine. Et Paul, comme je l'ai dit, dit la même chose dans Romains 3. « Leur gosier est un sépulcre ouvert. » Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, là où Jacques parlait d'un poison de mort. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Jacques va en parler juste après. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est facile, là, il parle des païens. Qu'est-ce qu'il en est pour nous, chrétiens ? Qu'est-ce qu'il en est pour nous, chrétiens ? Est-ce qu'on se sert de notre langue, par exemple, pour tromper ? Est-ce qu'on confesse des choses que l'on ne vit pas? Est-ce qu'on garde une apparence, et comme le dit Paul dans Corinthiens, un beau langage, une sagesse de langage pour impressionner, mais il manque l'essentiel, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu et le message de la croix. Nous vivons dans un temps aujourd'hui où dans les églises, on n'apprécie plus d'entendre le message de la croix, c'est-à-dire... Le message de la croix, c'est simple, c'est de dire que pour avoir la vie, il faut d'abord mourir. Si je veux l'union avec Jésus dans sa vie, sa puissance de résurrection, il me faut devenir un avec lui en sa mort. Paul, Épître aux Romains, chapitre 6. Et ce n'est pas simplement de la proclamation. Cela doit être une réalité dans nos vies. Et donc, comme le dit Jacques, l'homme peut... dresser, apprivoiser toutes sortes d'animaux, et il y a pourtant quelque chose en lui, en elle, qui n'est pas capable de dompter, naturellement, c'est la langue. Le premier des péchés dans une église, ce sont les péchés de langue. Ah, si tu savais un tel, j'ai entendu que... Mais c'est pas grave, on va prier pour lui. Hein, on a toujours de belles prétextes de prière, en fait, pour... mettre en public ce qui aurait dû être resté caché. C'est souvent comme ça que ça se passe dans les églises. Les péchés cachés, on les proclame. Oui, mais c'est pour prier. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. On couvre l'amour, il couvre le péché. Donc on a beaucoup de péchés pieux qui se commettent par la langue. Et c'est là qu'on va entrer maintenant... Vous voyez, je ne vais pas faire très très long aujourd'hui. On va entrer maintenant dans le cœur de ce que dit Jacques. Parce qu'il va donner plusieurs exemples pour dire qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas concilier ensemble. On ne peut pas d'un côté bénir Dieu notre Père et de l'autre côté maudire les fils d'hommes, comme il est dit. Littéralement en araméen, on pourrait dire les fils d'Adam, les fils et les filles d'Adam. On ne peut pas bénir d'un côté et maudire de l'autre. Et ça, c'est un thème que l'on retrouve là encore et dans Jacques et ailleurs. Dans Jacques 1, on l'avait déjà dit, notre cœur, ou notre âme plutôt, ne peut pas être double. Clocher sur deux pieds. On bénit, on maudit. On ne peut pas avoir une âme divisée, comme le dit l'araméen. C'est la duplicité intérieure. Les pharisiens étaient par définition doubles. Ils proclamaient une chose à l'extérieur, mais l'intérieur, comme le dit Jésus, était rempli de rapines. Dans le chapitre suivant, Jacques chapitre 4, il dira « Purifiez vos cœurs, vous qui êtes double. Alors encore cette idée, vous qui êtes divisé en vous-même. Et en araméen, la notion de diviser en nous-mêmes, c'est peut être également traduit par être dans le doute. C'est parce que je suis dans le doute que je cloche sur un pied ou que je cloche sur l'autre. Jésus dira dans Matthieu 6, « Nul ne peut servir deux maîtres. » On ne peut pas être constamment dans la schizophrénie, c'est-à-dire cette tension entre ce que je proclame et montre aux autres et ce que je vis à l'intérieur. À un moment donné, cette tension doit se résoudre. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 3, je vous rappelle ce que Jésus dit à l'église de Laodicée, qui est tiède. Elle n'est ni froide, c'est-à-dire dans le monde, ni bouillante, marchant pour le Seigneur, mais un espèce de compromis entre les deux, où un jour je bénis et l'autre jour je maudis. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond, si un jour je bénis, l'autre jour je maudis ? Ça veut dire qu'il y a une œuvre dans le cœur qui est inachevée. Elle a certes commencé, mais elle est inachevée. Et je reboucle avec Jacques 2, cette foi que l'on reçoit à l'appel n'est pas arrivée à maturité. On est encore dans l'entre-deux. Et c'est confortable l'entre-deux. Hein ? On connaît suffisamment de Dieu pour se rassurer religieusement, mais pas suffisamment pour accepter la mort. En fait, c'est Israël dans le désert, ni en Égypte, la froideur de la mort, ni en Canaan, la chaleur de l'esprit, mais dans un entre-deux. Et ça, je pense, pour moi, pour ma part, c'est le danger, ça fait partie des dangers les plus grands pour notre vie chrétienne. Parce qu'on a tous expérimenté le Seigneur à l'appel, on a tous goûté que sa parole est bonne, et on peut se contenter de cela et vivre dans cet entre-deux. Comme le dirait Tozer, j'ai un peu de Dieu, mais pas tout. Et Dieu, il a un peu de nous, mais pas tout. On est dans un entre-deux. Et c'est ça que Jacques dénonce, cet entre-deux. Et la langue est un bon moyen de savoir où est-ce qu'on en est. On peut vivre dans un entre-deux. Donc, je rassure ma chair religieuse parce que j'ai goûté au Seigneur, mais je continue à conserver ma vie pour faire ma volonté et non pas celle de Dieu. On est dans un entre-deux. Et donc, c'est une œuvre qui est inachevée. Et pour reprendre le langage de Jacques 2, c'est une œuvre qui n'a pas mûri. Le fruit n'a pas mûri. Souvenez-vous, dans la parabole du semeur, ou la parabole des terrains plutôt, hein, il y a, outre la semence qui tombe sur le chemin, dure comme du caillou, il y a la semence ensuite qui tombe soit dans le terrain rocailleux, soit au milieu des ronces, et dans les deux cas, la semence monte. Mais dans le cas du terrain rocailleux, le soleil fait faner le grain, la plante, avant qu'elle ne porte du fruit. Et dans le cas du terrain rempli de ronces, la plante est étouffée par les ronces avant qu'elle ne porte du fruit. Et vous voyez que dans ces deux cas, ça a bien commencé, mais ça ne va pas au fruit. Ça ne va pas à la maturité. Et ce n'est que le quatrième terrain, d'où on a enlevé les cailloux et les ronces, et donc c'est du travail que le grain germe, grandit, et comme le dit la parabole, vient l'herbe, puis les épis, puis les grains de l'épi. Et quand c'est mûr, vient la moisson. C'est vraiment cette notion de maturité qui est importante. Hein? Un accomplissement par la maturité, on devient adulte dans la foi, en entrant dans cette œuvre de mort pour expérimenter la vie du Seigneur. Et c'est là la véritable foi. C'est pour ça que l'exemple d'Abraham nous a été donné. J'ai cité tout à l'heure dans la prière, espérant contre toute espérance, deux fois dans sa vie, au moins, Abraham a été confronté au défi de la mort. Et c'est le thème commun de l'accomplissement de la foi. La première fois, parce qu'à l'âge de 100 ans, Sarah avait 99 ans, il dit, mais mon corps est vieux, le corps de Sarah ne peut plus avoir d'enfant, c'est trop tard. Mais espérant contre toute espérance, parce que Dieu lui avait promis que la vie jaillirait de la mort, un an après, l'ange vient. Alors, je mélange un peu la chronologie, excusez-moi. C'est à 99 ans que l'ange vient à Abraham et lui dit, l'année prochaine, ta femme aura un enfant. Et Abraham a espéré contre toute espérance, alors qu'il ne voyait que la mort, il y a la vie qui est venue. Vous voyez ? Et la même chose lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Et il est dit dans l'épître aux Hébreux, chapitre 11, et donc je le dis à ma manière. D'un côté, Dieu me promet une descendance, c'est-à-dire Isaac. De l'autre, il me demande de sacrifier mon fils. Donc, puisque Dieu ne peut pas mentir, c'est qu'il va ressusciter mon fils. Si j'obéis et que je sacrifie Isaac, il va me le rendre à la vie. Espérant contre toute espérance, Dieu amène à la mort pour que naisse la pensée de la résurrection. C'est ce qu'il dit dans Hébreux 11. Et c'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous quand on est face à des situations qui nous semblent fermées, bouchées. Et je pense évidemment à nos frères et sœurs. Ça paraît fermé. Espérant contre toute espérance. De la mort jaillit la vie. Et donc il faut accepter et embrasser la mort si on veut connaître la vie. Nous, on veut être justifiés par la foi que le Seigneur nous donne à l'appel, qui est la pure grâce de Dieu, mais on pense, ça y est, c'est terminé. Non. Ensuite, il faut s'unir à Jésus dans la mort pour ressortir avec lui dans la vie. En clair, il faut traverser le désert pour entrer ensuite en Canaan. Donc, comme je viens de le dire, dans Jacques 2, donc on parle de cette foi qui doit devenir mûre, et je rappelle également ce qui est dit dans l'épître de Pierre au deuxième chapitre, chapitre 1, on doit faire nos efforts pour joindre à la foi que le Seigneur nous donne, tac, 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 qui mène à l'amour qui accomplit la loi. Donc de la même manière que l'amour accomplit la loi, l'œuvre de l'Esprit accomplit notre foi. C'est la même chose. Alors c'est là que je vais ouvrir une parenthèse. Je vais ouvrir une parenthèse. Alors c'est marrant, j'ai relu du coup récemment l'épître aux Romains, chapitre 3, 4 et 5, mais dans l'araméen. Et c'est étonnant parce que j'ai quand même traduit cette épître, en tout cas les 8 premiers chapitres, il y a un certain temps déjà. Et il y a quelque chose qui ne m'avait absolument pas percuté. Et qui là, m'a percuté. Vraiment. Pourquoi ? Vous savez que dans le chapitre, la fin du chapitre 3 et tout le chapitre 4 et le chapitre 5, il est question, et surtout le chapitre 4, central, il est question de la justification par la foi. La justification par la foi. Et quand vous lisez ce texte dans le grec, il n'y a qu'un seul mot grec qui est employé. À chaque fois que dans vos traductions en français, vous avez le mot justice, derrière, il y a toujours le même mot grec. Étonnamment, en araméen, il y a deux mots complètement différents. Et Paul passe son temps à alterner d'un mot à l'autre. Fin de Romains 3, chapitre 4, début de Romains 5, il y a deux mots qui sont employés en araméen, là où le grec n'en emploie qu'un seul. Et que veulent dire ces deux mots-là ? Le premier mot, zadikoussa, c'est le mot, vous le connaissez en fait, sadok. Tzadik, en hébreu, ça veut dire juste, le juste, le tzadik. Zadok, donc Zadok et comment il s'appelait l'autre ? Zorobabel, voilà, qu'on trouve dans la parole. Donc ça veut dire la justice légale, la justice déclarée, la justice selon la loi. Quand il est dit « Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté en justice », C'est ce mot-là qui est employé. Il y a eu une déclaration sur la vie d'Abraham. Mais est-ce que ça s'est arrêté là? Non, parce qu'en araméen, il y a un deuxième terme. C'est le terme « kenfa ». Et ce terme veut dire « la droiture intérieure ». Ça veut dire que l'œuvre s'est accomplie, cette déclaration de justice s'est accomplie par une droiture intérieure, une rectitude intérieure, rectitude morale. Il y a une œuvre qui s'est accomplie. Et c'est, en fait, c'est exactement ce dont parle Jacques, puisque Jacques nous parle de cette foi qu'on le reçoit, mais si elle reste là, elle reste morte, et cette foi doit mûrir dans une droiture intérieure, une justice qui devient accomplie, mûre dans notre vie, et c'est le deuxième terme araméen. Et c'est intéressant que quand Paul cite donc Genèse 15, Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté à justice, la traduction araméenne du texte hébreu emploie bien le premier terme, le terme qui renvoie à une justice légale. Donc Paul va d'abord citer l'araméen avec ce premier terme, mais les deux autres fois dans Romains 4 où il recite encore ce passage de Genèse 15, il va cette fois employer le deuxième terme. C'est-à-dire une justice accomplie dans la vie et pas simplement déclarative sur la base de la foi. Parce que là, évidemment, il a grâce de Dieu qui l'impute la justice sans les œuvres de la loi. Mais comme le dit Jacques, cette foi qu'on reçoit ne sera néanmoins accomplie et mûre que si on est passé de la chair à l'esprit. Vous voyez que, du coup, Jacques et Paul s'harmonisent, j'allais dire, encore mieux que je ne le pensais, par l'emploi par Paul de ces deux termes, l'un au début à l'appel et l'autre dans l'accomplissement de cette foi par l'œuvre de l'Esprit. Donc c'est assez étonnant. Et par conséquent, la langue va être un des révélateurs de là où nous en sommes, de ce chemin qui mène de la foi initiale que l'on reçoit par la grâce, Éphésiens chapitre 2, et où est-ce qu'on en est dans cette œuvre de circoncision du cœur pour que la bouche se mette à parler en droiture. Je vous rappelle que les religieux, tout hostiles qu'ils étaient à l'égard de Jésus, étaient obligés de dire « Nous savons que tu parles avec droiture, avec intégrité ». Ils ne pouvaient pas contrer Jésus sur ses paroles, parce que les actes allaient avec les paroles. Les deux étaient un. Donc si la justice, notre justice, comme le dit Jésus, hein, ne dépasse pas celle des pharisiens, c'est Jésus qui le dit, hein, si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, une justice déclarative, mais pas une justice en actes. C'est pour ça que Jacques insiste sur les actes, mais pas les œuvres de la loi, les œuvres de l'esprit en nous, la marche par l'esprit. Si la justice ne reste que déclarative, la bouche va rester divisée, et elle va dire le bien, et elle va dire le mal, et elle va bénir, et elle va maudire. Mais si la droiture devient intérieure, si cette œuvre-là s'accomplit par l'esprit, alors la langue s'unifie et ne parlera plus qu'un seul langage. Et donc, pour reprendre l'image du désert coincé entre l'Égypte et Canaan, le désert, c'est quand la bouche confesse le langage de Canaan, mais que le cœur parle encore le langage de l'Égypte. Vous voyez? C'était le problème des Israélites dans le désert. Ah, mais pourquoi avons-nous quitté l'Égypte? On mangeait si bien en Égypte, nous avions des oignons, nous avions ceci, cela. Mais pourquoi Moïse nous a fait-tu sortir d'Égypte? C'est pour mourir dans le désert. Ben oui, c'était pour mourir. L'ancienne génération a dû mourir dans le désert pour que la jeune génération qui n'a pas connu l'Égypte entre en Canaan. Et c'est la même chose pour nous. Le vieil homme en nous doit mourir pour que l'homme nouveau entre en Canaan. Toujours le même schéma. pas de vie sans mort. Et Jacques termine en disant: de la bouche sortent donc la bénédiction et la malédiction, l'eau douce et l'eau amère. Est-ce qu'un figuier peut produire des olives? Est-ce qu'une vigne peut produire des figues? Est-ce que de l'eau salée peut devenir de l'eau douce? Autrement dit, un cœur qui est mauvais peut-il produire de bonnes paroles? Ben non. Donc une œuvre doit être accomplie. Au fond, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Quand il parle de ces choses-là, de ce mélange de bien et de mal, de bénédiction, malédiction, d'eau douce et d'eau amère, etc. Comme je l'ai dit, il dénonce ce confort religieux qui consiste à avoir un peu de Dieu, mais pas tout. Et nous, pour nous d'avoir un peu de Dieu et pas tout. Et pour Dieu d'avoir un peu de nous et pas tout. Donc une œuvre qui est à moitié faite. En fait, je pense derrière tout ça, évidemment en nous parlant du cœur, il nous parle de la circoncision du cœur. Est-ce que le cœur est circoncis ou pas? Mais encore plus profondément, il nous parle du rapport entre la chair et l'esprit. Et donc là, je dois à nouveau clarifier quelque chose, et ce sera ma conclusion. C'est que la vie chrétienne est faite d'un paradoxe. Et le paradoxe est le suivant. C'est que le Seigneur met en nous, avec tout ce que j'ai dit avant, évidemment, met en nous et veut mettre en nous la vie de son esprit dans notre cœur, par la circoncision du cœur. Mais nous sommes bien d'accord également qu'à cette vie de l'esprit est quand même attachée encore la chair. Dès que je dis ça, on peut immédiatement dire: ah oui, donc c'est normal de pécher. Après tout, nous avons encore la chair, donc c'est normal de pécher, n'est-ce pas? Et ça, c'est celui qui est dans l'entre-deux qui résonne comme ça. Un peu de vie de l'esprit, mais je peux continuer à vivre selon la chair. Un peu de bénédiction, mélangé avec un peu de malédiction. Un peu d'eau douce, l'eau de la parole, mélangé avec un peu d'eau amère. Vous voyez? Et donc le paradoxe, c'est celui suivant. D'un côté, maintenant je vais prendre toujours pareil, thèse, antithèse, troisième voie, pour bien que ce soit clair. Toujours pareil, les deux extrêmes. Et ensuite, là, je pense, ce qu'est la voie biblique. Un extrême, c'est de dire, ouais, de toute façon, je ne suis pas encore passé par la résurrection, j'ai encore ma chair, donc ma chair, elle exprime la chair, donc elle pêche. Et vous avez des chrétiens qui pensent comme ça. C'est normal de pécher, de toute façon, on est encore dans la chair, on est encore, etc. Et voilà, tout ça ne s'arrêtera que quand on mourra. Ça s'appelle l'antinomisme. C'est pas grave, de toute façon, je suis justifié. Je suis sauvé. Évidemment, on se demande de quoi on est sauvé, puisque l'évangile de Matthieu dit que le Seigneur veut nous sauver de nos péchés. Donc, d'un côté, je dis que je suis sauvé de mes péchés, et de l'autre, je continue à vivre dans le péché. Il y a un problème. Ça, c'est la thèse. Ça s'appelle l'antinomisme. La loi n'est pas accomplie en nous. C'est ça que ça veut dire. Mais il y a l'antithèse, qu'il ne faut jamais oublier. C'est l'antithèse du pharisien. Et ça, c'est la recherche de la perfection. Et je l'ai dit déjà plusieurs fois, je pense vraiment que dans la bouche d'un chrétien, s'il y a un mot qu'il faut bannir, c'est le mot perfection. Pourquoi? Parce que si on cherche la perfection, ça veut dire que par définition, je suis en train de me regarder dans un miroir. Et je vais dire, je ne pêche plus. J'ai connu un milieu perfectionniste, donc je sais comment ça marche. Impossible de faire admettre quelqu'un qui pêche de manière évidente qu'il a péché. Parce que vous comprenez, voilà. On est devenu parfait. Là, c'est le réflexe du pharisien, c'est-à-dire il se regarde lui-même, se trouve beau, comme le... Qui c'est qu'ils ont regardé dans un miroir comme ça? Oui, voilà, exactement. Oh, dis-moi combien je suis belle. Voilà, le pharisien passe son temps à dire « Oh, montre-moi combien je suis beau, combien je suis propre juste. Je ne suis pas comme le reste des pécheurs. » Alors qu'il commet le pire des péchés à l'intérieur de son cœur. Mais l'extérieur est bien polissé, bien nettoyé. C'est le pharisien, c'est le religieux. Ça, c'est le perfectionniste, c'est le légaliste. Et donc, c'est quoi la troisième voie? Là, c'est compliqué. D'un côté, il y en a un qui dit « Je pêche toujours ». Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui dit « je ne pêche jamais » ou « je ne pêche plus ». C'est quoi la troisième voie? La troisième voie, c'est une chair qui est dominée par l'esprit. Elle est toujours là, donc je ne serai jamais propre juste aux yeux de Dieu. Mais ça veut dire également que tout ce que je fais, tout ce que je dis, est entaché et ne peut jamais être parfait devant Dieu. Donc on arrête avec cette idée de s'observer soi-même pour qu'on fasse les choses de manière parfaite. Non, tout ce que l'on fait est entaché. C'est pour ça que Jésus dit aux disciples que vous êtes purs. J'ai juste à vous laver quotidiennement la poussière qui colle à vos pieds. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jamais, tant que je suis dans cette chair, je ne serai juste en moi-même. Constamment, j'ai besoin que le Seigneur me lave par l'eau pure de sa parole. Constamment. On ne pourra jamais dire « je suis juste par moi-même ». Et pourtant, marchons par l'esprit et on n'accomplit plus les désirs de la chair. La chair, elle est bien là, mais comme le dit l'araméen, elle est paralysée, elle est tétanisée, elle est rendue impuissante. Et c'est à ça que nous devons aspirer. Que la vie de l'esprit, notre regard sur Jésus, rende la chair impuissante. Elle est là. Je ne serai jamais parfait. Mais autant que possible, par le regard sur Jésus, par la confiance en Jésus, autant que possible, on fait nos efforts, on avance pour que cette chair reste maîtrisée. Qu'elle ne puisse pas s'exprimer. C'est ce que Dieu disait à Caïn. Le péché est tapis à ta porte. Il est là, mais toi domines sur lui. Alors évidemment, Caïn ne pouvait pas dominer sur son péché puisqu'il était tout charnel. Et au contraire, au lieu de choisir la voie de l'esprit, il va tuer son frère. Vous voyez? Mais la parole nous montre que la marche par l'esprit permet de maîtriser la chair. La maîtriser, c'est pas le bon terme. Permet de la rendre inopérante. Donc, si on veut marcher avec le Seigneur, il ne s'agit pas de brider nos désirs, brider, essayer de se censurer en permanence. Comme le dit la parole, la puissance du péché est dans la loi. Plus j'essaye d'appliquer la loi, plus le péché va m'exploser la figure. Donc, la voie de l'impuissance de la chair, ce n'est certainement pas par la loi, par le légalisme, mais elle est par la recherche de Jésus, l'aspiration à le connaître, l'aspiration à marcher avec lui. Donc, c'est une foi qui devient obéissante. La foi d'Abraham a débouché sur la vie parce qu'Abraham était obéissant. Il a appris l'obéissance. Mais il n'y a pas qu'Abraham. Souvenez-vous que Jésus lui-même, incarné, a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et je crois que c'est toi, Dorothea, qui a fait allusion à ça tout à l'heure. Les épreuves que le Seigneur nous envoie, ce n'est pas pour nous faire du mal. C'est pour que notre foi s'approfondisse, s'ancre en lui, voit au-delà du visible, espère au-delà de toute espérance. Que cette foi, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, soit comme une encre qui pénètre au-delà du voile et qui saisit le Seigneur dans le lieu très saint et ne le lâche plus. C'est pour ça que le Seigneur nous envoie des épreuves. Et par ces épreuves-là, la chair devient impuissante, inopérante. Mais dès qu'on détourne les yeux de Jésus, souvenez-vous de l'épisode de Pierre, quand il voit Jésus marcher sur l'eau. « Ah, si c'est vraiment toi, dis-moi de sortir de la barque. Allez, viens !» Et puis Pierre commence à sortir et à marcher sur l'eau. Et puis après, il voit les vagues autour de lui et plouf, il plonge. Et là, Jésus, hop, le rattrape. C'est exactement ça. Donc, je le dis souvent et je le répète à chaque fois, je ne me lasse pas de répéter les choses. La foi, c'est juste une question de regard. Où est notre regard? Est-ce qu'il est sur Jésus, envers, malgré et contre tout? Ou alors, effectivement, est-ce qu'on se laisse emporter, comme il est dit, par les idoles? C'est intéressant que la première épître de Jean, est-ce que vous vous souvenez de la toute dernière parole par laquelle Jean conclut sa première épître? Est-ce que vous vous souvenez? Gardez-vous des idoles. C'est comme s'il disait, tout ce que je vous ai dit pendant 5 chapitres se résume à une seule chose, Jésus ou les idoles. Parce qu'une idole, c'est juste ce qui prend la place de Jésus. Et donc, pour reboucler avec le thème de la langue, vous voulez connaître l'idole de quelqu'un? Ben, écoutez de quoi la personne parle. La bouche révèle ce qu'il y a dans le cœur. Donc voilà, ce paradoxe, je pense que ce qu'il y a derrière tout ça, c'est effectivement la question de la gouvernance du cœur par l'esprit, dont la langue ne sera que le révélateur, et donc le rapport entre la chair et l'esprit, entre d'un côté la chair qui s'exprime librement, parce que vous comprenez, je suis justifié, et de l'autre, un perfectionnisme qui aspire à une vie comme si la chair n'était pas là, donc ça devient irréaliste. La troisième voie, la voie centrale, c'est la marche par l'esprit qui rend impuissante la vie de la chair. Et la mesure de cette œuvre-là, c'est notre langue. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. J'espère avoir été clair. Alors, comme d'habitude, je fais de la dialectique. Donc, toujours une première voie, une deuxième voie. Et ce que je pense être cette voie d'équilibre biblique qui ne nie pas la réalité de notre chair. Jean, dans sa première épître, commence le chapitre 2 en disant « Je vous ai écrit ces choses, la marche dans la lumière, etc., afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un consolateur auprès du Père. » Donc le péché doit devenir l'exception et non plus la règle. Donc, non pas tout le temps, non plus jamais, mais l'exception. Parce que l'on marche par l'Esprit, parce que l'on marche avec Jésus, parce qu'on regarde à lui, on l'écoute et on obéit. Voilà, que le Seigneur puisse bénir cette parole et servir de miroir à chacun. Comme le dit Jacques, la parole elle est là pour servir de miroir et que nous puissions voir où est-ce que nous en sommes. Voilà, que le Seigneur puisse utiliser ce qui a été dit pour que nous puissions chacun nous mesurer, comme le dit Jacques, à l'aune, à la mesure des paroles que nous employons. Qu'est-ce que nos paroles révèlent de ce qu'il y a dans notre cœur? Amen.